L'émission jazz d'Allegre FM.
Tous les samedis à
17h. Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. Bah écoutez, on est particulièrement heureux de vous retrouver. On imagine qu'en ce 4 janvier, vous devez avoir un peu l'esprit embrumé. Mais c'est pas grave parce qu'on va vous proposer de digérer la fête avec une musique qui va vous relaxer, partir dans d'autres brumes, des brumes musicales. Et pour démarrer cette nouvelle année, eh ben nous, on va démarrer cette nouvelle année les doigts posés sur le clavier, puisqu'on a le grand honneur de recevoir deux très grands pianistes sur la scène du jazz actuel. Les deux se connaissent, enfin, du moins je suppose qu'ils se connaissent, ils sont pratiquement de la même génération. Ils viennent tous les deux du jazz, mais ils ont suivi des traces complètement différentes. Pour l'un, le jazz, c'est une affaire ancrés dans des racines très profondes qu'il ne cesse de creuser, mais en rajoutant sa propre patte, que ce soit sous son nom en tant que leader ou en tant que co-leader des groupes. Je vais laisser bientôt dire son nom parce que le teasing est insupportable et vous vous êtes en train de nous demander mais c'est qui. Et l'autre qu'on recevra en deuxième partie, il sera au téléphone, malheureusement il n'est pas sur Paris, lui, c'est le jazz, pour lui est un point de départ qui croise sa route avec celle de la pop, du rock et voire même de la techno, mais tout en restant attaché à ses fondamentaux. Ce sont deux pianistes qui aiment le jazz, qui aiment le jazz à leur manière, de manière totalement différente. Alors, en première partie d'émission, on a le plaisir de recevoir, je vais lui laisser dire son nom.
Maxime Sanchez,
voilà. Qu'on est ravis de recevoir à plein de titres. D'abord parce qu'il vient nous présenter son premier album sous son nom, sauf erreur de ma part.
Absolument.
Voilà, je ne me suis pas trompé. Album dont le titre est presque un clin d'œil à un des grands maîtres du jazz, puisque l'album s'appelle, vous venez d'entendre This Foolish Things, vous l'avez sûrement reconnu, et l'album s'appelle tout simplement Standard.
Oui.
Il est pareil sur le label Scala. Standard, c'est un petit clin d'œil à un autre pianiste ?
Alors, ouais, oui, bon, c'est un clin d'œil, et c'est en fait un clin d'œil à quasiment tous les musiciens de jazz.
Oui, aussi, bah, bien sûr, mais il y a un pianiste qui a fait un nombre de standards,
volume, et puis vous mettez un chiffre derrière, et puis vous avez un des disques qu'il a fait.
Et ça m'a fait plaisir, parce qu'en écoutant cet album, en voyant qu'il s'appelait Standard, je me suis dit, bah, après, il y aura Standard volume 2.
Ah, on ne sait pas où on en sera, mais déjà Standard volume, entre guillemets volume 1, on est déjà content.
Alors, Maxime Sanchez, pour les auditrices et auditeurs qui ne le connaîtraient pas et qui ont donc tort de ne pas le connaître, mais qui vont le découvrir, mais si vous le connaissez, parce que notamment, il est cofondateur d'un groupe, et je me permets là, aujourd'hui, officiellement, de le féliciter, de faire partie des nominés de l'Académie du Jazz, avec trois autres nominés, dans la catégorie du grand disque français de l'année, puisque vous êtes cofondateur de Flashpig.
Eh oui.
Et donc l'album en question, c'est
The Mood for Love.
The Mood for Love, qui tourne pas mal, puisque c'est, c'est dans le cadre d'un groupe qui s'appelle donc Flashpig. Bon, votre frère était venu nous expliquer, ou même vous aussi d'ailleurs, puisque vous êtes venu plusieurs fois à la radio. Hein. Mais oui, vous faites partie de notre groupe chouchou, on assume tout à fait nos choix et nos amours. Et donc Flashpig, effectivement, on a toujours eu un coup de cœur. Et effectivement, ce dernier album, ce Mood for Love, est nominé. Ça fait quoi comme effet d'être nominé par l'Académie du Jazz ?
Ça fait surtout plaisir. Et en fait... ce qui est agréable avec Flashpig et avec les projets que j'ai en général plus largement, c'est que je sens qu'il y a il y a des choses qui prennent petit à petit, c'est du long terme, et c'est aussi ce que j'aime, donc ça tombe bien. Et je sens qu'on à l'usure, on a tout le monde un petit peu, quoi. Il y a un truc qui est inéluctable à un moment donné avec le temps, avec la qualité, j'imagine aussi, et avec on a envie de faire quelque chose avec ce groupe et puis avec nos projets. Et puis je sens que petit à petit, les gens, ils adhèrent de plus en plus et ils écoutent de plus en plus. Et donc, ça fait vraiment plaisir.
Et ce qui est formidable dans cette nomination, on ne sait pas encore quel groupe sera primé, on le saura le 10 mars, mais en tout cas, vous faites partie des 4 nominés. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est la nomination d'un collectif. Et c'est très rare que, généralement, l'Académie du Jazz, je ne crois pas que ce soit produit, d'ailleurs, l'Académie du Jazz récompense un musicien pour... Et là, c'est un collectif, c'est un groupe qui est nominé.
Et oui, et ça, c'est tout notre plaisir, parce qu'au départ, Flashpig, c'est quelque chose qu'on a créé à plusieurs. Alors, c'est sûr que j'écrivais au début beaucoup la musique. Ça a donné une direction, certainement, mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement collectif. Et je pense que le disque... nominé, donc, enfin, je ne sais plus si c'est groupe ou disque, mais en tout cas, le disque qui correspond à la période actuelle est vraiment un des disques les plus collectifs, justement, de la carrière de ce groupe, d'un point de vue même des compositions, de la façon dont on l'a construit.
Alors donc, dans Flashpig, il y a au piano quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Maxime Sanchez, puisque c'est vous-même. et alors, on a attendu, parce que vous avez un parcours dans le jazz qui vous a très vite propulsé pas loin des sommets, puisque vous avez fait partie des lauréats aussi du concours Thelonious Monk. Vous avez l'air de froncer les sourcils comme si c'était très très lointain.
Non, j'attendais de savoir de quoi on allait parler. Mais...
Oui, vous avez été lauréat.
Oui, à titre personnel pour le coup, ouais, c'était pas avec Flash Pig. Oui, j'ai été dans les finalistes de ce concours prestigieux.
Par qui était dans le jury?
Oula,
il y avait Herbie encore.
Il y avait Herbie encore, il y avait Jason Moran.
Ouais.
Il y avait Monty Alexander. Il y avait des gens que je connaissais pas et que j'ai découvert, et j'ai oublié tous leurs noms, mais il y avait deux femmes super intéressantes et passionnantes avec qui j'ai discuté. Une pianiste qui a joué avec Joe Anderson. J'ai beaucoup de mal à remettre les noms et les prénoms de tout le monde. Il y avait un autre pianiste, un homme aussi. Enfin, il y avait, mais c'était que des gens. Après, je suis allé voir leur pédigré.
Waouh. Et qui avait gagné cette année-là au sommet?
Non, je me souviens plus. Je me souviens du second, c'était Isaiah Thompson, parce que j'ai eu un petit crush sur ce qu'il a joué, je trouvais ça vraiment passionnant. Et d'accord. Le premier était excellent aussi, mais je me souviens plus. Bon. C'était un pianiste qui jouait avec Elie de Gibri, je sais pas.
De Gibri, oui. Allez, on va chercher alors.
On va trouver.
Donc effectivement, c'était un début de carrière assez prometteuse, mais vous avez attendu avant de sortir votre premier album solo. Alors que c'est quoi le déclic?
C'est vrai qu'on peut se dire à 37 ans ça fait tard, parce qu'il y a des... Bah, typiquement Keith Jarrett, il a fait quasiment que ça toute sa vie, j'exagère un peu parce que c'est pas vrai, au départ il jouait dans des groupes, mais il y a beaucoup de pianistes, Brad Meldow aussi, sous leur nom, ils ont très très vite sorti des disques, et moi, déjà j'étais bien dans l'idée d'avancer avec Flash Pig, c'était notre projet vraiment phare. Et quand on dit notre, c'est que chacun individuellement, c'est notre projet phare, quoi. C'est comme si c'était mon groupe, Florence, c'est-à-dire le contrebassiste, c'est comme si c'était ton groupe. Pareil pour Gauthier, pareil pour Adrien. Mais ce qui m'a toujours plu, c'est qu'aussi en parallèle, continuer à développer d'autres idées, d'autres projets. Et ce projet-là, sous mon nom, avec des standards pour commencer peut-être une série de disques en trio, ça me semblait être approprié. Et c'était une envie que j'avais depuis longtemps, quand même, enregistrer quelque chose en trio. Mais il a fallu que le temps passe un peu, que les idées s'éclaircissent et que l'opportunité aussi arrive.
Et l'idée de dire faisons complexe dans la simplicité, ou faisons, enfin je sais pas comment dire, parce que ce que vous jouez c'est des chansons en fait.
Ce sont des chansons.
On entend ça comme une évidence, et pourtant c'est difficile d'imprimer son... Vous imprimez votre style sur ces standards, c'est difficile de dire ça, je l'ai déjà entendu jouer par Bill Evans, j'ai déjà entendu jouer par Keith Jarrett, etc. Mais il faut que je m'en... Comment on fait pour se faire abstraction des illustres prédécesseurs?
C'est une question...
Parce que, pardon, juste de vous interrompre, mais en fait, la démarche est presque plus complexe quand il s'agit d'imprimer son style sur des standards que sur ses propres compositions.
Oui, pour moi, c'est un truc qui se ressemble énormément en réalité, mais c'est une question que les artistes, en général, ont tendance à se poser. En tout cas, c'est une des questions... Qui pointe du doigt l'artiste, en tout cas. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un artiste si ce n'est quelqu'un qui a une voix singulière, et quoi qu'il fasse. Et moi, ce qui m'a toujours le plus surpris, c'est que quand j'écoute les grands maîtres de cette musique, jusqu'à des gens qui sont encore vivants, hein, pas que les... mais des gens qui marquent pour moi cette musique, ce sont toujours des gens qui ont réussi à jouer tout sur... Si je peux dire, dans n'importe quel contexte musical, ils étaient uniques. Unique tout en étant
reconnaissable,
tout en étant aussi dans la musique avec les autres. Ce qui fait, à mon avis, une des spécificités de cette musique aussi, pas que de celle-là, mais en particulier de la musique de jazz. Ce sont des gens uniques qu'on arrive à reconnaître au premier coup d'oreille, et qui font partie aussi d'un groupe. Quand on prend le quartet de Coltrane, c'est des personnalités très fortes, mais qui jouent ensemble, quoi. Il y a un truc aussi commun.
C'est complètement ce que je pense de Flash Pig.
Voilà, absolument. Tant mieux.
Très fortes personnalités, mais en même temps qui forment un ensemble.
Non, mais c'est
très
hyper
cohérent.
Pour moi, c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai choisi ces musiciens dans ce trio.
Alors, c'est qui les musiciens?
Alors, Florent Nys, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Comme avec Adrien, le trio d'Adrien.
Oui, t'es venu ici.
Non, mais Florent, c'est notre. C'est presque notre papa, quoi. C'est notre frère et notre papa à la fois.
Donc à la contrebasse.
À la contrebasse. Et là, cette fois, d'habitude, je travaille...
Votre papa, vous avez le même âge.
Oui, mais c'est un papa... C'est
spirituel.
Spirituel, ouais. Ah. Et aussi les contrebassistes, donc il tient un truc, quoi. Okay. Mais après, j'ai beaucoup travaillé avec Gauthier Garrigue, qui a sorti son disque aussi.
La Traversée. Temps,
la Traversée.
Sur le label Pee-wee.
Sur le label Pee-wee. Et cette fois-ci, c'est un de mes grands amis avec qui j'avais jamais enregistré, donc j'étais hyper fier de pouvoir l'inclure dans ce projet, qui s'appelle Guillaume Flouza, un batteur, pareil, quelqu'un que vous reconnaissez très vite, on s'habitue très vite et on finit par reconnaître. Et par, il a une façon de pratiquer cet instrument qui est bien à lui et que j'aime dans ce contexte.
Très, très demandé, effectivement, en ce moment, Guillaume Flouza, et pas seulement pour ses qualités de batteur, mais aussi de direction artistique. Je participe à beaucoup de projets. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, il était un peu derrière Flash Pig, derrière Mood for Love. Non, il était pas.
Alors, Mood for Love, il nous a écrit, je crois, des liner notes, si je ne me trompe pas. C'est quelqu'un qui a. Moi, ce que j'adore être au contact de ce mec parce qu'il me challenge sur plein de choses, en particulier des sujets de littérature, de réflexion, de tout ça, et c'est quelqu'un qui je pense qu'il arrive à saisir des choses quand il écrit, donc intéressant aussi.
Alors, on vient de changer d'année, et ben c'est justement l'occasion de passer un morceau qui n'a absolument rien à voir avec le changement d'année, si ce n'est qu'il s'appelle, c'est un grand standard, You've Changed, absolument magnifique, mais alors sous les doigts de Maxime Sanchez, vous allez voir que votre après-réveillon va être sublimé. Allez, on écoute You've Changed. Thank you. Et oui, je laisse un peu le silence, parce que sous les doigts de Maxime Sanchez, le silence qui est après la musique, c'est encore de la musique. C'est absolument magnifique. J'espère que vous y avez été sensible. Vous êtes bien sur Jazzland, à l'IRFM 93.1, en compagnie de Maxime Sanchez pour l'album qui est déjà sorti, Standard Live at la Scala de Provence, apparu sur le label Scala, comme je viens de le dire. Et là, on venait d'entendre You've Changed. Maxime, je suis en train de me dire, vous sortez votre album de Standard, vous avez Flash Pig, vous êtes aussi avec Kepler, vous avez un attachement fort à la mélodie.
Oui. Oui, je crois que oui.
Il y a une question derrière, en fait. Ça. Ah. Je ne vous ai jamais entendu jouer, mais c'est peut-être moi qui suis passé au travers du truc, avec un chanteur ou une chanteuse.
Jamais, oui, c'est pas jamais, effectivement. Mais qu'est-ce que je peux répondre à ça ?
Non, mais l'idée, c'est... parce que il y a la mélodie, il y a ces chansons, en fait, là, dans cet album.
Oui, oui.
Ces standards, c'est les chansons, en fait.
Quasiment tout, ouais. Ce sont toutes des chansons, mais la voix, c'est un truc qui m'a toujours posé question. C'est quelque chose qui donne une identité extrêmement forte à une chanson. Et qui parfois, pour moi, est trop à travers les paroles aussi, et parfois est trop. En fait, c'est trop parfois.
Quand vous jouez comme ça, c'est standard. Justement, ce sont des chansons. Mm-hmm. Et je ne sais plus quel musicien ou quel chanteur disait, mais moi, je ne peux pas jouer si ces morceaux-là si je ne connais pas les paroles.
Ah oui, moi, je peux très bien jouer sans connaître les paroles. Une mélodie, enfin, je veux dire, combien de mélodies il y a sans paroles dans l'histoire de la musique, c'est un petit peu. Ou alors, c'est que la mélodie est mauvaise. Enfin.
Oui, oui.
Mais non. Mais par contre, si la chanson est bien écrite, les paroles et la mélodie ont une corrélation. Et ça, c'est intéressant pour savoir comment on l'accentue, comment on l'interprète, tout simplement.
Et là on se disait hors antenne, on vient d'entendre You've Changed, il y a forcément un clin d'œil, mais une petite révérence à la fameuse version qu'on connaît tous de Keith Jarrett.
Hein, oui, bien sûr, là je me cache pas. Comme je disais hors antenne, il y a une référence avec des musiciens qui jouent en 2024, avec un son 2024, y compris une approche. Enfin, c'est pas de 2024 particulièrement, mais une approche différente finalement. Mmh. Si vous comparez un jour, ne serait-ce que le son de la basse de Gary Peacock et celui de Florent, vous trouverez un monde.
Bien sûr. Bien
pourtant, sûr. Il adore. Enfin, c'est des références quand même qu'on a très fortes. Hein.
Et alors, il y a quelque chose aussi qui est très 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 frappant chez vous, c'est que. Et je dis ça, c'est pas du tout pour vous flatter, mais j'entends ça aussi chez Flash Peak, c'est-à-dire que vous avez une personnalité musicale très affirmée, et en même temps, toujours un refus de la virtuosité gratuite, en quelque sorte. On l'entend, là. Il y a une économie de lyrisme inutile, en fait, si, pour dire les choses. C'est quelque chose que vous travaillez, ça, parce que, surtout quand on sort un premier album, il y a beaucoup qui disent, mais on va en mettre partout.
C'est pour ça que j'ai attendu 37 ans, je pense.
Ouais, c'est ça, c'est une maturité.
Il y a quelque chose. En fait, c'est.
Au début, vous étiez tout fou
oui,
au clavier.
Oui, ouais. Trop. Mais moi, quand j'étais ado, je jouais des notes sans cesse et des idées sans cesse aussi. Ça m'a pris beaucoup de temps à trouver un moyen de capter mes idées en temps réel. En fait, c'est ça qui est intéressant, de les capturer et de les valider aussi en temps réel ou de les refuser.
Et ce qu'on entend dans votre jeu, c'est que y a ce côté less is more, c'est-à-dire que mais j'imagine qu'on vous là vous êtes en disque, mais on vous entend comme ça en concert, on sent que vous éliminez ce qui est un peu superflu.
Merci. Non, mais c'est vraiment, ça fait partie de choses à mon avis qui sont importantes dans cette musique, c'est comment se concentrer sur l'essentiel. Enfin. Et qu'est-ce qui est essentiel ? Alors ça, du coup, cette réponse, elle est relativement personnelle. Donc ça, c'est intéressant parce qu'elle est aussi personnelle pour les auditeurs, auditrices. C'est-à-dire, pour moi, ça, c'était essentiel ou ça, ça l'est moins. Et après, il y a aussi cette chose de dire que jouer, typiquement, c'est Thelonious Monk aussi qui m'a appris ça à travers des transcriptions que j'ai pu faire, du travail autour de sa musique et de sa façon de jouer. C'est très compliqué à faire ce qu'il fait. Et ça n'a pas une impression particulièrement virtuose.
Ce qu'on ressent chez vous hein.
Ouais. Et pour moi en fait c'est la virtuosité, ça peut être la facilité en fait, il faut juste toujours faire bien attention à quand on reçoit quelqu'un de très virtuose, de voir dans quelle mesure c'est pas un choix par défaut, en fait, tout simplement. Oui,
absolument. Ben, on va faire l'illustration, parce que parfois, la virtuosité, je ne suis pas musicien, donc vous pouvez me dire si je dis une connerie, vous me dites que je dis une connerie, mais parfois, on a l'impression que les musiciens sont d'autant plus virtuoses que le tempo est élevé.
Oui, ça aide un peu à la virtuosité.
Ça aide un peu à la virtuosité. Ouais. Et ben, vous, non. Et ben, tiens, on va faire la démonstration avec Grooving High. Et oui, toujours sur Jazzland à l'IRFM 93.1 pour démarrer cette nouvelle année. Et là, nous étions avec Maxime Sanchez pour la sortie de l'album Standard Live at Scala Provence. Maxime, un grand merci.
Avec plaisir.
On va annoncer les dates de concert. Vous restez avec nous, hein, parce qu'on a un autre sérieux client aussi en deuxième partie. Est-ce que notre autre sérieux client est à l'antenne ?
Tout à fait, bonsoir.
Bonsoir Tony, ravi de vous recevoir. On aurait aimé vous avoir, comme on dit maintenant dans le jargon bureaucrate, en présentiel. Mais là, ça va être en distanciel. Puisque,
je ne suis pas loin, mais je suis au 104 à Paris, mais je suis en résidence.
Ah ben voilà, vous n'êtes pas loin. Ben on va essayer de se retrouver quelque part ce soir, j'imagine, pour boire une bière. Ouais. Vous avez entendu un petit peu, là, le Maxime?
Oui, j'ai entendu tout, ouais.
Vous connaissez? Bah, vous connaissez avec Maxime?
Oui, on se connaît bien. Enfin, on a même fait une tournée en Corée ensemble, il n'y a pas très longtemps, il y a un an.
C'est ce qu'il nous a dit, effectivement. Oui, oui. Alors, Tony, on est ravis de vous recevoir. Je disais en démarrant l'émission que vous avez, avec Maxime, des trajectoires qui sont complètement différentes, mais toujours avec le même ancrage dans le jazz. Je disais que Maxime continue à creuser ce sillon de ce jazz, de ses racines du jazz. Et vous prenez une voie un peu qui bifurque en croisant avec de la pop, du rock, etc., comme vous l'avez fait sur pas mal de vos albums. Et là, vous venez avec un album absolument magnifique qui s'appelle Wise Animals. Et je vous propose qu'on parle, parce qu'il y a une sorte de concept, c'est un peu une sorte de concept album, très très riche, et je vous propose qu'on écoute déjà un premier morceau. On va parler des oies sauvages, Wild Goose, d'accord ?
Ouais, d'accord.
Et on envoie Wild Goose. Vous êtes bien sur Aligre FM, Jazzland, en compagnie de Tony Pellman pour la sortie de l'album Wise Animals, sorti sur le label Shed Music. Et là, on venait d'entendre Wild Goose. Tony, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu sorcier ? On vous sent sorcier de la musique et du son. C'est quelque chose... En fait, on a le sentiment, en entendant votre travail depuis plusieurs années, et puis notamment là, sur cet album, qu'il y a deux choses indissociables chez vous. Il y a l'interprète, et puis il y a celui qui travaille le son aussi. C'est un travail indissociable pour vous.
Exactement. Je pense que peut-être en ayant appris à jouer en même temps, un peu à la fois du piano, c'est ma base, mais après très vite, les instruments électriques comme le Rhodes... Après, plus tard, un peu les synthétiseurs. Et puis, en étant passionné, en fait, par la production de disques, c'est-à-dire qu'avant même de le faire, je me demandais toujours comment ils ont produit ce truc-là, comment on peut faire ce son, qu'est-ce qui me plaît dans ce disque, en termes de... Vraiment pas que de musique, aussi, tout ce qui concerne comment ils fassent sonner le son. Et du coup, maintenant, c'est un peu ma passion, en fait, c'est de me dire, j'arrive à allier le côté musicien, mais aussi le reste. Et c'est quelque chose qui me paraît aussi important, comme la forme ou le son, c'est vraiment un tout des fois, Parce que le matériel, par exemple, peut être très simple, et avec un matériel simple et un son très spécifique, on peut avoir aussi une émotion aussi puissante que des fois des choses trop complexes. Ou,
oui, on a le sentiment...
C'est un outil.
On a le sentiment, en entendant votre musique, que vous la jouez, mais aussi que en amont, vous l'avez déjà fabriquée, vous avez déjà prévu, les un peu comme un alchimiste, les récipients qui vont aller avec. Et d'ailleurs, je me pose une question, on sent tellement cet amour du son qu'on se demande, est-ce que vous passez autant de temps en post-prod qu'en production, ou c'est équilibré, c'est...
Je sais pas. Là, sur celui-là, sur ce disque-là, j'ai passé un peu de temps, par exemple, pour les couches de synthétiseur que j'ai pas fait à la base dans l'enregistrement en trio. Mais pas non plus excessivement, parce qu'en fait, comme vous avez dit avant, je pense que j'ai une idée. Déjà, dans les maquettes que j'avais fait, elles étaient assez avancées. Et j'ai vraiment une idée dans la tête, et je me dis juste quel est l'outil, quel est le meilleur synthé avec la meilleure pédale qui, pour moi, là, va m'amener au son que j'ai dans ma tête, quoi. Mais c'est quand même déjà imaginé intérieurement, quand même. Donc ça fait gagner du temps, parfois.
Alors, l'album s'appelle Wise Animals. Il y a une idée, hein, il y a une idée directrice, une ligne conductrice de cet album. Vous pouvez peut-être nous en dire deux mots, parce qu'on parle, j'ai vu, dans des liner notes, vous parliez de concept album, c'est ça ? Ou c'est Daniel Evinet qui en parle dans ses liners, je crois.
Non, dans les liners, c'est moi, et c'est dans le communiqué de presse, Daniel parle de ça. C'est simple, c'est le concept, c'est un morceau, un animal. Donc c'est que c'est 11 animaux sauvages, et c'est juste vu par mon prisme une idée de transmettre, pas de traduire en fait une image de ces animaux sauvages avec de la musique, avec des fois le caractère évident qu'on imagine avec un animal féroce ou un animal par exemple là ce qu'on a écouté, pour moi c'est vraiment les oies sauvages qui migrent. Au début du morceau, la partie un petit peu lyrique, c'est quand elles sont dans la partie, on va dire, du nord de l'Europe, et quand elles sont en train de faire des grands vols planés. Et puis, pour moi, la partie percussive et qui fait un peu africaine, c'est la partie pays chaud, quand elles sont arrivées dans les pays du sud. C'est juste une idée comme ça, voilà, c'est l'idée là qui m'a conduit à faire cette transition. Mais pour chaque animal, je me suis fait en fait une imagination de moi, ma vision de l'ours, de l'autruche, de l'albatros, du guépard. Et c'est juste une idée. Ce qui est marrant, c'est que je le referais maintenant, ça serait probablement un autre morceau.
Ah oui, oui.
Mais c'est aussi pour... ça m'amusait de penser que les gens auraient des images, peut-être, parce que comme là, je les guide vers un animal, pour voir si eux, ça leur fait cette image-là, ou s'ils voient autre chose, ou... C'est ça un peu le concept, c'est un animal, une image, est-ce que vous, ça vous fait quelque chose, quoi ?
Ah ben vous savez quoi, tiens, vous me donnez une idée, Tony, vous savez quoi, ce qu'on va faire, je vais pas annoncer le titre du prochain morceau, et comme ça on va laisser...
Ah non, ça c'est méchant.
Ah c'est méchant, oui, on va laisser les auditeurs essayer de trouver l'animal en question, j'ai même, tiens, je vais lancer le défi à Maxime, qui va me haïr après. Okay. Allez, on écoute le morceau suivant, allez.
Ça marche.
I'm solitary, but that's voluntary. Alone but not lonely, found my solace in the darkest prairies. Three hearts to keep my compass buried. My home is everywhere I go, without a lot to carry. I know myself, no need to show myself. Hiding amongst the stones is how I cloak myself. With a body full of ink, see how I wrote myself. Another path to escape, but every tattoo I make, leaving those who try to follow in the blackness of my wake. Is it a craft if it's innate? With every mask that I create, with every flash of the cape, and mastery of these traits of being is freeing me from having to pick a state. It's actually me, like naturally, I happen to be that which you thought inanimate, animated a fleet. Was hiding in plain sight where your cameras waited to see the man who made the debris, contaminated the sea. A land of discarded objects is there demanding of me to perform. You've been warned, now go along and let me be. You coming here is in vain, thinking we one and the same. You can blame it on the deep blue blood in my veins. The blood in my veins. You can blame it on the deep blue blood in my veins. Blame it on the deep blue blood in my veins. Okay, look now, look, wait.
You're the alien here, that's why I rarely appear. The broken world that you created, you try to bury it here. My lifespan is short, sometimes it's barely a year. But if we dead up on the shore, then you carried us here. Along with all that you have tossed and abandoned, it's clear. Has the plastic you adore, ain't that a man in his fear? The loss of his convenience, not the loss of us here. Tell me, who pays the cost for the loss of this sphere?
Et oui, toujours sur Jazzland, à Digre FM 93.1, en compagnie de Tony Pellman pour la sortie de Wise Animal sur le label Shed Music, le label d'ailleurs que vous avez contribué à créer, je crois, Shed Music.
Oui, tout à fait, un collectif avec mes acolytes du groupe de Watershed, c'est-à-dire
Pierre
Percho, Carl Januskap et Christophe Ponzani. Ouais.
Tony, on lance une sorte de cri d'alarme. On aimerait réentendre Watershed. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne vous entend pas? Que ce soit en disque ou en concert, on est fan de votre groupe.
On est un peu pris par nos projets en leader chacun, puisque là, chaque musicien en fait. Dans ces quatre-là, et du coup, on a du mal à trouver le temps pour se réunir pour la partie groupe, quoi, on va dire.
Revenez-nous vite. Alors là, on venait d'entendre un morceau, mais Maxime, il a tout de suite trouvé, son oreille musicale. Non, c'est faux, complètement faux. Ah.
Le morceau, c'est pas facile. Là, il faut écouter le texte. Si on traduit le texte, c'est facile à trouver. Mais...
Et oui, Blood in My Van, c'était Octopus, c'était donc La Pieuvre. Et donc, ça nous donne l'occasion, puisque là, on a entendu un rappeur, que vous nous rappeliez vos camarades de jeu.
Tout à fait. Bah, donc c'est le même trio que le trio en 2021, The Fuse. Voilà. Ouais. Donc c'est Stéphane Huchard à la batterie et Julien Hernet à la basse. Et là, sur ce morceau, donc j'ai demandé au rappeur américain qui s'appelle Mr. J. Medeiros de d'écrire le texte sur mon instru. Ouais. Et je lui ai donné le thème, quoi. Je lui ai dit voilà, le morceau il s'appelle Octopus et j'aimerais bien que tu écrives un texte sur le documentaire qu'il y a eu sur Netflix sur la pieuvre. C'est-à-dire, c'est ce qui m'a frappé, c'est ce documentaire sur la manière de l'intelligence de cet animal, et la manière dont il s'était attaché à son humain, qui allait le voir tous les jours, et toutes les capacités aussi de camouflage, d'intelligence qu'a cet animal, quoi. Et donc, en fait, il parle comme s'il était la pieuvre. Donc, il s'est mis à la place de l'animal. Il y a des données techniques sur ce qu'il dit, et il y a une certaine ironie parce qu'il parle de l'humain qui va probablement le détruire, quoi. Et voilà, et il a joué le jeu, il s'est mis dans ce truc-là. Voilà. Il y a aussi Stéphane Edouard qui fait des percussions sur ce morceau et sur deux autres aussi.
Alors donc, les musiciens, on rappelle, hein, c'est Julien Hernet à la basse, Stéphane Huchard à la batterie. Et donc, dans les invités, il y a donc le rappeur Medeiros, Mathis Pasco à la guitare.
Oui, j'ai oublié Mathis, tout à fait.
Voilà, ouais. Stéphane Edouard aux percussions. Tony, nous on ne cesse d'être émerveillés par votre capacité à vous métamorphoser en ayant un pied dans la tradition du jazz. Parce que quand on entend The Fuse, quand on entend ce qu'on vient d'entendre là, on pourrait penser que vous avez oublié la tradition du jazz. Or, c'est pas vrai. Et on l'entend dans cet album. Les gens qui vont écouter cet album vont bien vous entendre, effectivement, aussi ancré dans cette tradition. On vous entend, par exemple, moi j'ai eu la chance de vous entendre cet été à Marciac, accompagné, puisque vous accompagnez la chanteuse Yun Sunna avec Eric Lénini. Mm-hmm. Et c'est très révélateur parce que avec Yun Sunna, vous passez de l'acoustique à l'électrique, vous tournez, en fait. Je trouve que c'est assez révélateur de votre personnalité musicale. Vous avez un pied dans l'acoustique et un pied dans l'électrique, c'est ça?
C'est ça, je ne sais pas s'il y a de la tradition dans ce que je fais, mais moi la tradition, elle me tient à cœur dans le sens où j'ai commencé par là, comme tous les musiciens de jazz, je me suis d'abord intéressé et après à essayer de jouer des standards. Donc je ne me prétends pas défendeur de la tradition, parce que là clairement par rapport au disque, surtout qu'on vient d'écouter de Maxime, où là il joue vraiment des standards et je trouve que c'est beaucoup plus parlant pour défendre la tradition. Mais en tout cas, j'ai jamais quitté cet attachement à l'improvisation, à d'où vient le jazz. Et c'est juste que j'aime bien mélanger, comme plein de musiciens actuels, avec toutes les autres musiques que j'aime tout autant, la pop, le rock, la variété, l'électro. Ouais. Et j'aime bien ne pas penser en termes de barrière ou de style, et de me dire juste je fais ce que j'entends là, maintenant, en ce moment.
Mais on l'entend aussi au travers de votre album, dans la mesure où vous ne choisissez pas vraiment entre l'électrique et l'acoustique. Vous avez aussi bien du piano que du synthé.
Tout à fait. Bah, je trouve que c'est hyper intéressant de mélanger ces deux mondes, en fait. Mais ça se fait depuis très longtemps, hein. Mais en tout cas, moi, j'aime le faire particulièrement, en tout cas, ouais.
Vous aviez un bon studio pour enregistrer?
Je sens qu'il y a une question de piège.
Un petit peu, oui, bien sûr.
Même Maxime, il connaît le piano. J'avais un très bon studio. C'est chez moi. Et puis, c'est le studio qu'on a racheté il y a 2 ans et demi avec ma femme Sonia Cadbero. Et voilà. C'est un chouette endroit pour créer de la musique. Et quand c'est chez soi, c'est vrai que c'est un luxe. Là, c'est vraiment. J'ai beaucoup de chance. Ouais.
Ah, mais c'est vrai que pour aller travailler, pour sortir du lit, pour aller travailler, vous n'aviez pas beaucoup de chemin à faire.
Non, 50 mètres.
50 mètres. Et d'ailleurs, on vous lance un appel. Nous, on aimerait bien, pour Jazzland, venir faire un reportage sur vos sessions, vos futures sessions d'enregistrement au studio de Bruyères. Comme ça, en plus, ça nous permet d'être dans un endroit sympathique avec des gens sympathiques. Ouais. Et voilà. Non, mais c'est plus sérieusement, faire un reportage sur ce lieu. Hein. Ouais, on avait déjà mis ça dans les tablettes. Est-ce que. Moi, je me souviens du concert, c'était. Je ne sais plus où c'était, au Trianon ou à la Cigale, quand vous aviez sorti The Fuse, où c'était.
C'était à la Boule Noire.
À la Boule Noire, pardon. À la Boule Noire, où il y avait. C'était un vrai spectacle, un vrai show. Est-ce qu'il faut s'attendre à ça pour votre prochain concert, pour la sortie de Wise Animals?
Non, parce que du coup, comme là je reviens avec un piano, j'ai choisi une salle, j'ai choisi le studio de l'Ermitage où il y a un bon piano.
Et le 21 janvier.
Le 21 janvier, mais il n'y aura pas de mur, il n'y aura pas un écran avec de la vidéo qui sera projetée. Donc non, ça ressemblera plus à un concert classique de jazz. Avec nous, les musiciens, il y aura les lumières, mais non, ça sera un peu moins... c'est pas le mot, mais ça sera un peu moins spécifique. Ça sera un concert classique au niveau visuel en tout cas.
On s'écoute un troisième morceau, si ça vous ennuie pas. On va s'écouter Big Bird.
Ok.
Thank you.
Et oui, toujours sur Jazzland, en compagnie de Tony Pellman pour la sortie de Wise Animal sur le label Shell Music. Et alors, Tony, mais je viens d'apprendre quelque chose hors micro, c'est que en fait, vous avez joué Maxime et vous dans une tournée en Corée, mais avec Yoon Sunna.
Tout à fait. Voilà. C'était à peu près les mêmes morceaux que vous avez vus à Marciac.
À Marciac, donc Maxime...
À peu près plus des morceaux coréens.
Maxime, dans le rôle d'Eric Lenini. Ouais. Ben, je regrette de ne pas y être allé parce que Maxime, je ne l'ai jamais entendu au Fender.
Ah ben c'est... Il faut le voir.
Faut le voir pour le croire, c'est un truc de fou.
Et alors je disais justement quand je disais que vous aviez dans cet album plus particulièrement, vous étiez vraiment entre deux mondes, un monde acoustique et un monde électrique. Là, c'était un peu la démonstration dans Big Bird, où vous changez de clavier. Si vous devez choisir entre les deux, c'est difficile, on peut pas choisir, si.
S'il n'y avait que comme la question pour l'île déserte,
d'accord.
S'il n'y avait qu'un seul truc, pour moi, ce serait mon piano du studio, et avec ça, je peux faire toute ma vie. Mais je serais malheureux quand même.
Bah, c'est-à-dire, sur une île déserte, il faut trouver un endroit pour brancher le Fender. Quoi. C'est plus compliqué. Vous avez raison de prendre le piano, c'est plus sûr.
Voilà, exactement.
Alors, on rappelle la date du concert, c'est le 21 janvier. Et alors, Maxime était désolé parce qu'il rêve de venir vous entendre, mais il a un gig le même soir.
Oui.
Parce que je me demandais comment tu arrives à jouer cette musique produite en trio. C'est un truc qui me questionne, donc j'aurais été ravi de venir écouter. Et je vous encourage à y aller, parce qu'il faut aller le voir ça pour le croire aussi.
Merci. C'est forcément moins produit, mais on essaye de garder l'essence, en tout cas, l'essence de ça, quoi. Ouais.
Tony, quand on fait un album comme celui-là, qui est d'une richesse incroyable au niveau des textures, des nappages, du jeu, de la production, de l'homogénéité qu'il y a aussi, parce que je trouve qu'entre vous, Julien et Stéphane, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Mais quand vous écrivez ça, vous avez des choses en tête, vous avez des musiques en tête, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, Tony ?
Oh là là. Moi, j'écoute beaucoup de musique tout le temps. Je suis assez boulimique d'écouter à la fois...
Non, parce que sur l'île déserte, vous avez le droit d'emmener un piano, mais aussi un disque. Ah oui, ouais. Mais Maxime, il a les yeux aussi en disant, la question à la con, on peut pas répondre à ça.
C'est vrai. Ça va probablement être un disque de Herbie Hancock ou Stevie Wonder, si j'ai vraiment droit qu'à un seul disque. Mais à la fois, j'écoute beaucoup de choses comme ça. Je suis très, très fan des années 60-70. Donc, j'écoute tout le jazz, la soul music aussi, le rhythm and blues, mais sinon
quand vous avez préféré aller en résidence au 104 plutôt que d'être sur les studios d'Aligre FM, vous avez pris le train, vous écoutiez quoi?
Ce matin, alors là par exemple, il y a des semaines aussi où j'écoute mes collègues musiciens de jazz, c'est-à-dire j'écoute un peu tous les disques qui sont sortis de mes amis, par exemple Maxime, je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais il est sur la liste, c'est le prochain. Ben, j'ai écouté le disque de Sylvain Rifflet, j'ai écouté le disque de R.L. Besson, j'ai écouté le disque de Vincent Tégère. En fait, chaque fois que je sors un disque, j'achète le magazine du mois où il y a tous les disques qui sortent, et du coup, je me rends compte que je ne connais pas assez ce que font tous mes amis musiciens. Par exemple, je faisais un rattrapage de tout ça.
Et vous avez le droit de nous dire qui sont les prochains qui viennent enregistrer, c'est vous, ou c'est secret?
Oui, alors là, c'est pas secret, c'est dans 5 jours, c'est le quintet de Vincent Perani, Living Being, pour enregistrer le troisième album de Vincent avec ce groupe.
Très bien, très bien.
Voilà.
Tony, un grand merci, parce que là, j'imagine que si vous êtes en résidence, il y a plein de gens qui vous attendent.
Ben, il y a Christophe Manzani, par exemple, Guillaume Clouza, que connaît bien Maxime.
Oui,
par hasard.
Et c'est tout pour l'instant. Demain, il y aura Enzo qui nous rejoint, Enzo Carniel, qui sera là avec nous.
Je les adore tous, et féliciter Christophe, puisqu'il va sortir très prochainement un album. Et il a peut-être enregistré chez vous d'ailleurs, Christophe.
Quel album, lequel, pardon?
Celui qui n'est pas encore sorti. Il y avait Mer Océan qui est sorti, mais la suite de Mer Océan.
Non, c'est un EP, ouais, c'est un trois titres. Oui, si, on l'a enregistré au studio, et puis lui, il fait les saxophones chez lui, sinon le reste est enregistré chez moi. Ouais.
Vous le félicitez, et voilà, et vous lui dites qu'on aimerait bien entendre Watershed bientôt. Un grand merci, ouais. Tony. D'accord. Alors, on peut merci retrouver beaucoup. Toutes les infos sur l'album. Vous avez un site, Tony ?
Oui, j'ai un site. Je suis pas sûr qu'il soit particulièrement à jour aujourd'hui, mais normalement, oui, le site, le Instagram qui est très à jour particulièrement. Voilà.
D'accord.
J'ai un message à passer à Tony. Alors, j'ai encore un cadre de Corée, un cadre d'un artiste coréen chez moi.
Mince, voilà. J'espérais que tu l'avais oublié.
Non, il est toujours chez moi. Je sais que tu es au 104, promis, donc je vais venir te l'amener.
C'est promis, je le récupère en 2025. C'est comme ça laisse une petite marge. Quoi. Ouais.
Maxime, avant qu'on se quitte, vous aviez une annonce à faire. Vous vouliez annoncer votre site, c'est ça ?
Mon site, il marche très mal. Par contre, j'ai sorti des vidéos de duo que j'ai tournées chez moi. J'essaye d'en sortir une par mercredi. Et c'est tout sur ma chaîne YouTube. C'est facile à trouver, il suffit de taper Maxime Sanchez dans YouTube et de trouver le seul qui fait de la musique. Il y a plein de Maxime Sanchez apparemment, mais il n'y en a qu'un seul qui fait du jazz et du piano. Et après, comme Tony, on essaye tous d'être assez présents sur les réseaux sociaux. Donc j'imagine que pour Tony, c'est pareil, si vous voulez suivre nos actualités, etc., il ne faut pas hésiter à aller fouiller sur le réseau qui vous est préféré, sauf TikTok pour ma part en tout cas.
Absolument.
Pareillement.
Absolument. Messieurs, un grand merci, surtout un grand bravo pour vos albums et un grand merci d'avoir démarré cette nouvelle année avec nous. Tony, on en profite, saluer de notre part la famille Cadbéro qu'on connaît bien.
Tout à fait, ça sera fait, merci.
Un environnement de superbes musiciens. On va se quitter, nous, avec Dolphins, donc les dauphins donc, de l'album, encore une fois, Wise Animals, sur le label Chaîne Music. La semaine prochaine, vous retrouvez Lionel Eskenazi avec deux jeunes musiciens, Samy Thiebaud et une musicienne, Ludivine Issembourg. À suivre Lusitania et nous on se retrouve dans 15 jours et d'ici là portez-vous bien et faites bien attention à vous et puis surtout bonne année à tous. Ciao.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.